Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez une fois de plus dans les bulles d'histoire de Art District. Je suis avec un auteur immense, on peut dire ça comme ça, Étienne Davodeau. C'est quand même un des auteurs dont on dit le dernier Davodeau est sorti, ce qui est quand même pas courant. Donc je flatte pour commencer mon interview. En tout cas, je suis vraiment très heureux d'être avec lui. On va parler de son nouvel album. Je ne dis pas le dernier parce qu'il y en aura sûrement d'autres après, mais le nouvel album qui s'appelle Le droit du sol, journal d'un vertige. Bonjour Étienne, question traditionnelle des bulles d'histoire. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ?
Bonjour, qui je suis ? Je suis un homo sapiens qui consacre l'essentiel de son temps à réaliser des livres de bande dessinée. Bande dessinée de fiction assez conventionnelle ou bande dessinée de non-fiction, c'est-à-dire qui relève du reportage, du documentaire, de l'autobiographie, genre dans lequel sans doute s'inscrit mon dernier livre, Le droit du sol.
Oui, tu fais partie des gens qui font une sorte de BD documentaire, mais ouais. C'est aussi de la bande dessinée extrêmement humainement engagée, j'allais dire, plus que politiquement humainement engagée. Je trouve que l'être humain est particulièrement bien défendu dans ton travail.
Merci, je prends ça pour un compliment. En gros, pour moi, la bande dessinée, elle a cette grande vertu-là de pouvoir raconter des trajectoires humaines au plus près. Elle a cette vertu-là parce qu'elle est un art modeste techniquement et qui permet cette proximité bien plus que le bruyant cinéma ou l'austère littérature. La bande dessinée, elle a ça. Elle a le texte et l'image, elle a la faculté de mettre en place un trio entre celui qui raconte, celui qui lit et celui dont on parle, celui ou celle, évidemment. Et c'est cette dimension-là de la bande dessinée que j'aime bien explorer dans ce type de livre-là.
Oui, mais il y a une cohérence dans ton travail, j'allais dire.
J'espère.
C'est ça aussi.
J'espère.
En préparant l'émission, j'ai revu un peu les titres et j'en ai relu certains. Et je trouve que tout s'accroche, tout s'emboîte. On peut dire que c'est courant dans l'œuvre d'un auteur, mais je trouve que c'est particulièrement... dense dans ton travail à toi.
Alors je suis évidemment le plus mal placé sur cette planète pour répondre à cette question-là, mais oui, que ce soit cohérent, ce serait pas très étonnant dans la mesure où tout ça sort d'un seul crâne, et tout ça est dessiné par la même main. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur, non, parce que ça me vient naturellement. Ce sont les livres qui viennent comme j'ai envie qu'ils viennent. Évidemment, il se heurte à tout un tas de limites techniques, pratiques, qui sont mes limites à moi, mais le propos lui-même du début de mon premier livre à celui-ci, c'est ça, ouais, c'est raconter la vie des gens et le monde comme il va. Et c'est déjà un projet qui peut occuper quelques années dans une vie, quoi.
Un peu. Alors, on va parler du droit du sol, journal d'un vertige. Déjà, le titre m'a paru tout de suite étrange, que le droit du sol, ça renvoie à tout un imaginaire politique. Ouais. Or, le livre, il est évidemment très politique, comme tout ce que tu as écrit, mais il est aussi extrêmement poétique. Ouais. Il est historique, parce qu'on va voyager à la fois dans la géographie, dans l'espace.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est le droit du sol et pourquoi tu as choisi ce titre? Et avant tout, est-ce que tu peux nous faire le pitch de cet album?
Alors, le pitch, c'est assez simple. Dans la grotte de Pechmerl, qui est dans le Lot, près de Cahors, il y a 20 et quelques mille ans, des gens, des sapiens, comme toi et moi, ont dessiné. Et on peut voir ces dessins. On peut aujourd'hui aller à Pechmerl sans problème. C'est pas une copie comme à Lascaux, c'est pas une reproduction, c'est la vraie grotte. Il y a des dessins qui sont magnifiques, qui moi, en tant que sapiens et en tant que dessinateur évidemment, m'interrogent beaucoup et m'intéressent beaucoup. Et je trouve que c'est un beau cadeau que ces gens nous ont laissé. Et puis en regardant ce que les gens de notre époque vont laisser sous terre à leurs descendants, moi je me suis intéressé à ce qui se passe à Bure dans la Meuse, où là-bas, on s'apprête peut-être à enterrer des déchets nucléaires qui vont être toxiques pendant des centaines de milliers d'années. Ça veut dire que pendant des centaines de milliers d'années, nos descendants devront y veiller, peut-être s'en occuper, et faire le lien entre ces deux endroits où les sapiens se laissent des choses à leurs descendants me semblait intéressant, et j'ai eu l'idée de le faire à pied. Donc le pitch du droit du sol, c'est ça, c'est un sapiens qui prend son sac à dos et sa tente, qui part de Pechmerl et qui fait 800 bornes à pied vers Bure, et qui va raconter ce périple. Parce que de quoi ça parle? Ça parle de la planète. Et la planète, on la ressent bien quand on marche dessus pendant des semaines, qu'on dort dans des forêts, dans des champs, dans des volcans, et qu'on redevient ce sapiens fondamental qu'on est quand on marche.
Mais parce qu'il y a un vrai plaisir. On pourrait se dire, cet auteur, il s'est auto-puni pour expier les crimes du sapiens du 21e siècle. Ouais. Mais c'est pas du tout ça.
Non, il n'y a pas vraiment de démarche doloriste ou expiatoire dans mon travail, même si, par ailleurs, c'est vrai que... Parce que je parle beaucoup du fait de marcher, la randonnée au long cours, ça a aussi des inconvénients, d'inconfort, de difficultés, de fatigue, etc. Mais par ailleurs, c'est d'abord et avant tout une joie, un plaisir qui consiste à être seul, libre, et à n'avoir à occuper ses journées qu'avec des fonctions de base qui sont manger, dormir, marcher, boire, en gros. Et là, on se rapproche de quelque chose qui est fondamental, que nos vies quotidiennes dans des bureaux, dans des bus, dans des usines, dans des métros nous font parfois oublier. On vit assis, on est fait pour être debout, on est fait pour marcher. Et relier les deux points dont je parlais tout à l'heure comme ça, ça me semblait être une bonne façon de reconvoquer tout ça. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis lancé un jour de juin 2019 à Pêche-Merle avec mon sac à dos, et je suis parti vers le nord-est à pied.
J'ai lu dans une des interviews que tu as données que tu avais trois activités principales qui étaient marcher, écrire, dessiner. Mm-hmm. Et quand j'ai entendu ça et que j'ai vu cet album, ça m'a fait aussi penser à quelqu'un comme Richard Long, cet artiste américain qu'on considère comme un sculpteur, qui est un artiste de land art.
D'accord.
Et qui marche pendant des heures et des heures et des heures et des heures pour en fait dessiner sur le sol, par exemple, un trait ou des courbes, et ensuite il fait une photo. Une fois que la photo est faite, c'est terminé. La nature va reprendre ses droits et l'œuvre va disparaître.
Mais en fait, ce qui est intéressant dans toutes ces expériences-là, c'est de rappeler que nos existences en général et la pratique artistique, quelle qu'elle soit, y compris la bande dessinée, pour laquelle on pourrait ne pas le penser, ça passe d'abord par le corps. Le corps, l'effort, le geste sont des actes qui priment. Alors c'est vrai que la bande dessinée ne semble pas être l'activité artistique la plus physique. On pourrait penser à la danse contemporaine ou à la sculpture, où on attaque la matière avec un burin et un marteau. Mais il n'empêche, la bande dessinée, c'est vraiment, par le dessin, c'est vraiment l'exploration du corps, de son geste, et le fait de dessiner un sapiens qui marche longtemps, de le dessiner avec la fatigue, avec la chaleur, avec tout ça. Et puis de tracer en marchant, on trace une ligne aussi. La première chose que j'ai fait avant de marcher, c'est ouvrir des cartes IGN top 25 et avec un stabilo, tracer les chemins de randonnée que j'allais emprunter.
Oui,
le premier trait de mon livre, il est sur des cartes IGN.
Oui, à la fin, il y a le dessin du chemin.
Il y a le dessin du chemin parce que, voilà, quand on trace... Le mot trace, d'ailleurs, que ce soit un verbe ou un nom, c'est le premier acte du dessinateur. On trace quand on dessine, on trace quand on marche. Donc quand on fait un livre sur la marche, on trace de façon double, en quelque sorte.
Alors, dans cet album, donc tu marches seul.
Mais ça, la plupart du temps, oui.
Mais c'est aussi un album qui est très peuplé. Bon, on va revenir sur les cases presque vides, où il y a un rapport assez poétique entre la petite silhouette et l'horizon. Mais c'est aussi un album très très peuplé. Il y a des tas d'animaux, bon, il y a des chiens évidemment, mais il y a aussi des oiseaux, il y a beaucoup d'animaux. Il y a aussi beaucoup de gens, en fait, tu traverses des villages, il y a des paysans, il y a pas mal de gens que tu fais intervenir, on va en parler après, mais c'est aussi un périple. La rencontre des gens, c'est pas seulement un périple dans le territoire.
Oui, c'est vrai. Pour autant, quand j'ai tracé cette ligne entre Pêche-Merle et Bure, je me suis aperçu qu'elle allait emprunter ce que les géographes appellent un peu de façon désobligeante la diagonale du vide. C'est cette partie de la France qui est très peu peuplée, qui est le centre de la France, le Massif central, le Morvan, tous ces coins-là. Mais ça a l'avantage que quand on croise un autre être humain, on s'arrête, on discute. Là, on est à Paris. Si je sors dans la rue et que je croise un être humain, c'est un obstacle, surtout en ces temps de Covid. Quand tu es sur un chemin et que tu n'as vu personne depuis 2 heures ou depuis parfois une journée ou 2 jours, quand tu croises quelqu'un, tu t'arrêtes, tu poses ton sac et tu demandes comment ça va, d'où tu viens, où tu vas. Et ça nous oblige du coup à redevenir des animaux sociaux qu'on pense être en ville et qu'on n'est pas tant que ça en ville, à mon avis. Et c'est vrai que même sur ces chemins assez peu fréquentés, on croise toujours des gens. Il y a toujours quelqu'un dans son jardin, quelqu'un sur le pas de sa maison, sur le pas de sa porte. Et puis quand on est marcheur, on est un peu à la merci des autres. C'est-à-dire que j'ai marché pendant des jours de canicule, il m'arrivait fréquemment d'aller sonner dans des maisons pour réclamer de l'eau, par exemple, parce que mes deux gourdes ne me suffisaient pas pour la journée, que j'avais très chaud et très soif. Donc là, les gens sont intrigués. Qu'est-ce que vous faites là, avec un gros sac? Pourquoi vous marchez par ce temps? Il fait 40 degrés. Où vous allez? D'où vous venez? Et ça enclenche des conversations qui sont parfois anodines, mais qui sont souvent chaleureuses.
Et il y a aussi tous les gens qui marchent sur les chemins.
Il y en a aussi.
Et là, je trouve qu'on retrouve un peu l'humanité qu'on a en ville. C'est-à-dire qu'il y a des râleurs, il y a des gens qui sont pas contents. Et voilà, on retrouve un peu nos contemporains qui sont très différents de tous les gens sur leur pas de la porte. C'est ce que j'ai ressenti en lisant l'album.
Le hasard a voulu que sur ces quelques semaines de marche, les 4 ou 5 premiers jours, je marchais à rebours des gens qui descendaient à Saint-Jacques-de-Compostelle dans la vallée du Célé et du Lot, qui sont des chemins. Il y a plusieurs chemins en France qui convergent vers les Pyrénées pour filer vers Compostelle, mais en gros, le chemin qui part du Puy-en-Velay et qui passe par Conques et qui ensuite descend vers les Pyrénées, c'est le chemin que j'ai pris, mais moi je le prenais en remontant. Et donc j'ai croisé des dizaines de gens. Et là, effectivement, on se retrouve dans un rythme et dans une densité de population qui est très différente. Alors évidemment, la blague récurrente qu'on m'a fait pendant toutes ces journées, c'est « Mais tu le fais à l'envers, mais attention, Saint-Jacques, c'est dans ton dos, où tu vas, comme ça ?» Parce que j'étais le seul à marcher dans ce sens-là. Donc là, oui, on se retrouve dans une espèce de société plus conforme à ce qu'on connaît dans l'année. Mais dès que j'ai quitté ce chemin-là, j'ai retrouvé cette
magnifique solitude. C'est un truc qui m'a fait rire, ça. C'est-à-dire que c'est pas un chemin qu'on peut faire à l'envers, manifestement. Ça pose problème, en tout cas.
Je pense que 99,9% des gens qui font le chemin de Saint-Jacques le font vers Saint-Jacques. À ma connaissance même, enfin, je connais personne qui est parti de Saint-Jacques pour revenir au Puy-en-Velay ou au Mont-Saint-Michel ou je sais pas où. Mais bon, je sais pas, c'est pas un chemin que je connais bien, mais ça fait plusieurs fois que je marche sur ces sentiers-là où je croise ces gens. C'est vraiment le chemin le plus identifié, le plus fréquenté. C'est le chemin star des randonneurs au long cours, le chemin de Saint-Jacques. C'est aussi pour ça que je le ferai jamais, sans doute.
L'autre chose qui est très reposant quand on lit Le droit du sol, c'est que je ne sais pas si on peut dire que c'est un éloge de la lenteur. Bon, en tout cas, c'est un choix de la lenteur. C'est-à-dire que les cases vont... C'est un peu bête de dire ça, mais les cases vont lentement.
Non, c'est pas bête, parce que c'est ce que j'ai cherché à faire.
Et donc, nous, on va lentement aussi, on doit prendre notre temps, on ne peut pas accélérer, parce que sinon, on va rater 1000 détails. Ça fait partie aussi, je trouve, du grand plaisir qu'on a à lire cet album, c'est que ça va doucement.
Ouais, en fait, la question du temps, elle est centrale dans ce livre-là, puisque je pars d'un endroit qui a, en quelque sorte, moins 22 000 ans, puisque je pars d'un petit dessin de mammouth que j'ai adoré à Pêche-Mère, donc je pars à sa verticale, je me suis arrangé pour être sur le sol, à la verticale de ce point dessiné sous mes pas, et je vais vers un endroit où on parle de centaines de milliers d'années dans le futur. Donc la question de la temporalité, elle est d'emblée dans le récit. Ajouter à ça le fait que la marche, c'est par essence une activité lente et longue, que le dessin, la bande dessinée, c'est une activité qui prend énormément de temps aussi. On est dans cette dimension-là de quelque chose de voilà où on prend son temps, où on se dépêche pas. Et ça permet du coup d'ouvrir des espaces narratifs pour aborder toutes sortes de sujets avec toutes sortes de personnages différents. Et ça permet aussi de donner un rythme au livre, puisque le rythme du livre, c'est celui du marcheur. Et ça, c'est le tempo, en fait, de la page 1 à la page 200 et quelques. Et sur ce tempo, eh ben, je pose à la fois ce qui m'arrive au long de cette balade, et les gens que je croise, et puis d'autres hypothèses.
Oui, ce qui ralentit encore un peu, c'est aussi le rapport d'échelle, là vraiment dans les cases, entre le marcheur et le paysage. Mmh. Tu es souvent complètement noyé, complètement un petit point, un tout petit point, quoi. Là, il y a un jeu permanent entre l'échelle du temps et l'échelle véritable de l'être humain par rapport à la Terre, quasiment.
Ouais, c'est vrai qu'en bande dessinée, souvent le personnage est le motif central. Mmh. Et il est souvent en majesté dans chaque case, parce que le récit de bande dessinée, au sens le plus classique du terme, est principalement véhiculé par le personnage, voire le personnage principal, voire le héros, entre guillemets. Dans le cas de ce livre-là, non, le personnage principal, c'est le paysage, c'est le temps, c'est les questions qu'on se pose. Et donc le frêle randonneur que je suis, c'est souvent un petit point dans le paysage, effectivement, une petite bestiole qui progresse à la surface du sol. Et c'est ce qu'on est, fondamentalement. On est des petites bestioles fugaces. Mmh. Je marche quelques semaines, je vais vivre sur cette planète quelques décennies. À l'échelle dont on parle, c'est une seconde.
Oui, c'est rien du tout.
C'est une seconde, donc le mettre en exergue graphiquement, ça consiste aussi à dessiner un tout petit personnage de rien dans des immensités. Et en plus, ça s'y prêtait bien. J'ai traversé tout le Massif Central, le Morvan, qui sont des endroits réellement immenses. Et outre le plaisir du dessin, qui est réel, il y avait évidemment là quelque chose qui était tout à fait raccord avec ce que je voulais raconter.
Alors, il y a le plaisir du dessin, mais on en parlait juste avant de commencer l'interview. Il y a le plaisir du texte.
Oui.
Moi, je suis un vieux monsieur, j'ai 50 et quelques. comme toi à peu près. Quoi.
Voilà.
Et j'ai retrouvé un plaisir que j'avais complètement oublié, qui est le plaisir des noms de lieux.
Ouais.
Et notamment donc, le nom de tous les puits du Massif Central, où on avait ça, nous, sur des cartes, des grandes cartes géographiques.
Bien sûr, ouais.
Le puits de Sancy, le puits Pirou.
Pariou. Ouais, ouais.
Tous ces endroits, et donc tu en cites beaucoup.
Bah ouais, parce que j'y passe, j'y dors, j'y vis.
Il y a une vraie jubilation, je sais pas si tu l'as ressenti en traversant tous ces endroits.
Je l'ai d'autant plus ressenti que moi, ce sont des endroits que j'aime beaucoup, que je fréquente depuis longtemps, sur lesquels je marche par tous les temps et par toutes saisons. Et donc ce sont des endroits qui me sont familiers, mais dont effectivement la poétique sonore est quelque chose qui est présent depuis les cartes de Vidal Lablache qui étaient accrochées dans ma classe de CM2, dans mon village natal. C'est-à-dire que ces cartes-là, de la France, avec les sommets, avec les vallées, tout ça, c'était des endroits où on s'évadait déjà, en étant prisonnier dans une classe d'école. Et donc, les fouler réellement, ça a toujours été un plaisir aussi pour ça, pour cette raison-là, qui date d'il y a longtemps.
Donc moi, je n'y suis jamais allé, mais c'est des endroits très exotiques, quand on voit des souvenirs d'enfance.
Très exotiques, mais à 3 heures de route
voilà,
d'ici.
Des mondes merveilleux. Quoi.
C'est ça. Ouais.
Donc, le plaisir du texte, là aussi, on en parlait avant. Quand on lit une première fois le droit du sol, on est d'abord happé par les images, par la poétique des images, par ces jeux d'échelle et cette lenteur. Mais en relisant une deuxième fois, moi j'ai trouvé qu'il y avait des textes absolument magnifiques.
Merci.
Donc souvent il y a des petites bulles, c'est pas des longs textes, c'est pas des longues digressions. Mais il y a des bulles qui sont, je trouve, absolument magnifiques. Et si tu veux, j'aimerais bien que tu m'en lises quelques-unes. Pour les auditeurs.
Allons-y.
J'en ai repéré beaucoup. Hein. Mais j'en ai repéré deux. On est page 83 et page 84. C'est le seul texte qui sont sur les pages.
Ok.
En commençant ici, je te mâche le boulot. Et en finissant là. Voilà, si tu peux juste nous dire à quel endroit on est dans le cheminement.
On est dans la fin, on est dans la traversée donc, du Massif Central. Comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai marché essentiellement seul, mais là, ce week-end-là, un de mes meilleurs amis, Christophe, est venu me rejoindre pour marcher 2-3 jours avec moi. Donc nous marchons à deux. Nous marchons à deux et nous traversons donc la partie la plus haute en altitude de mon périple, c'est les crêtes du Sancy et le Massif Central. Et donc c'est un endroit que je connais bien, que j'aime bien, et les pages dont tu me demandes de lire le texte, ce sont des pages où il n'y a pas de bulles au sens de bulles dialoguées, ce sont des textes off, des textes de commentaires. La dernière fois que j'ai parcouru ces crêtes, c'était dans les averses d'une tempête furieuse. À d'autres moments, j'y ai eu droit à la neige et au brouillard. Il me semble même y avoir navigué un jour sous un franc soleil, et aujourd'hui encore, je le constate, sans doute plus qu'à d'autres montagnes, le mauvais temps va bien au Massif Central. Brassens a toujours raison, tant pis pour les pays imbéciles où jamais il ne pleut. Après un petit gueuleton au col de la Croix-Moran, nous avalons la descente vers le village de Pessade où nous allons passer la nuit. Et soudain, alors que la journée semble jouer, dans l'axe de notre trajectoire et dans la lumière oblique s'ouvrent les vastes perspectives que nous foulerons le lendemain. Peu de moments lors de cette promenade m'auront autant donné cette sensation euphorique de vertige horizontal. Elle attise le regard et génère une énergie nouvelle qui incite les jambes au mouvement perpétuel. Si ces déploiements d'herbe et de vent s'adressent d'abord à l'œil, il s'agit aussi de tendre l'oreille. Entendez l'alouette. Le modeste piaf se montre peu et ne s'essouffle jamais. À la fois furieux et joyeux, son chant strident sature le ciel sans effort, il ne ricoche sur rien et semble jaillir du zénith.
Je te remercie, lu par toi, c'est presque encore plus beau que lu.
C'est une expérience troublante, c'est la première fois que je lis ces textes à voix haute.
C'est vrai ?
Oui, absolument.
Et je me posais la question, est-ce que ces textes ils sont préécrits dans le scénario, ou est-ce que c'est des textes qui vont venir... quand tu dessines, j'imagine que le scénario, il n'est pas écrit avant la marche, évidemment.
Non, il n'y a rien écrit avant la marche, si ce n'est l'intention.
Tout ça, c'est écrit pendant la marche, mais des textes que je trouve aussi poétiques, aussi sensibles, est-ce que c'est écrit quand tu dessines ? Est-ce que c'est pré-écrit ?
Ils sont écrits en deux temps. J'ai pas du tout écrit ni dessiné pendant ces quelques semaines de marche. Mais par contre, chaque soir, dans ma tente ou au bivouac ou à l'endroit où je dormais, j'avais un petit carnet où je notais les sensations du jour et les idées. Donc en l'occurrence, là, j'avais noté l'idée de l'alouette, j'avais noté des choses comme ça, mais sans le développer du tout, simplement comme une annotation, une suggestion. Et les textes tels que je viens de le lire là, tels qu'ils figurent dans le livre, ils ont été écrits bien après, au moment où j'ai réalisé les pages de bande dessinée du livre. Donc ça, en gros, j'ai marché en juin et juillet 2019. J'ai commencé à dessiner le livre en septembre 2019. Ça m'a pris 2 ans, le dessin et l'écriture. Donc c'est ces 2 ans-là où j'ai reparcouru intégralement, en quelque sorte, le chemin, mais à la vitesse du dessinateur, qui est encore plus lente, on le disait tout à l'heure, que celle du marcheur. Et c'est là que tous ces textes, où il y avait l'anecdote de l'alouette, paf, il faut l'écrire, et là c'est un travail d'écriture au sens classique du terme. Mais j'ai apporté un soin particulier à ces textes-là, parce que le son, par exemple, en bande dessinée, il vient par là. Mmh. Le son du chant de l'alouette, de son écho, un peu vaste comme ça, dans l'immensité du ciel, ce sont des choses que, graphiquement, on porte peu, mais que le texte peut amener sur le plan sonore. Donc c'est ce jeu-là que j'adore pratiquer.
Parce qu'il faut, donc il faut dire à ceux qui nous écoutent que ces textes-là, ils sont sur des pages où il y a très peu de texte,
oui.
Beaucoup de grandes images et des petits inserts textuels.
Oui, en gros, là, on me voit avec mon ami Christophe descendre dans les grandes herbes et dans la lumière rasante.
Mais,
on ne parle pas tous les deux. On parle pas,
oui, c'est ça, ouais. C'est autre chose, c'est un texte qui vient en plus, qui éclaire. Quoi.
C'est ça.
Mais il y a d'autres endroits qui sont très bavards, cette fois-ci.
C'est vrai.
Parce que tu fais quasiment surgir du sol, ou de je ne sais pas où en tout cas, des experts.
Ouais.
Parce que c'est à la fois une bande dessinée très poétique, très personnelle, c'est un cheminement personnel, c'est dommage, je me répète. Mais c'est aussi une bande dessinée informative, puisqu'on va à Bure, et donc il y a quand même une critique intrinsèque de la bande dessinée du nucléaire et de cet enfouissement terrible. Donc tu vas faire venir pas mal de gens qui vont éclairer scientifiquement cette chose. Mm-hmm. Comment ils s'insèrent, tous ces personnages, dans ce cheminement très poétique, sachant que c'est des scientifiques, des ingénieurs, des sémiologues,
L'idée pour moi, elle était que ce livre soit constitué de deux énergies complémentaires, à la fois que ce soit le récit d'une expérience sensible, c'est-à-dire le compte-rendu en bande dessinée d'une marche au long cours, par l'auteur et le marcheur, qui serait la même personne. En bande dessinée, c'est pas si fréquent. J'ai pas trop d'exemples en tête. Et voilà, ça, c'était la première partie, mais je voulais dépasser un peu cet aspect purement sensible et linéaire, et l'enrichir de témoignages extérieurs plus étayés, plus scientifiques, plus militants aussi. Et donc, l'idée pour moi, c'était de convoquer sur le chemin, de façon virtuelle, des gens qui allaient nous parler de physique nucléaire, d'agronomie, de sémiologie. Et ces gens-là, ce sont des gens que j'ai rencontrés avant ou après d'avoir avoir marché, plutôt après, dans la majorité des cas. Et ce sont des gens que j'ai rencontrés dans un bureau, ou sur un café, sur la terrasse d'un café, à Paris, n'importe où. Mais je leur ai suggéré j'aurais proposé que notre conversation, celle que j'allais enregistrer, puis synthétiser, puis mettre sous forme de dialogue, plutôt qu'elle se produise à l'endroit où nous étions réellement, elle se produise sur le chemin, comme si ces gens étaient venus avec moi marcher. Tout le monde a accepté, très volontiers, et c'est ce qui donne cet effet un peu étrange de voir soudain apparaître un physicien nucléaire sur le chemin qui nous parle de nucléaire. Mais le lecteur est au courant, il n'y a pas d'entourloupe.
Oui, il n'y a aucune entourloupe.
Et c'est une façon amusante d'utiliser ce que la bande dessinée permet aisément. Je veux dire, la même chose en vidéo, ça aurait été très bizarre d'avoir un type qui apparaît comme ça sur le chemin et qui parle, ça, on dirait mais d'où sort ce type. En bande dessinée, à partir du moment où on informe le lecteur de la façon dont c'est structuré, il me semble que c'est très fluide et que ça passe très bien.
Oui, en plus, ça fait partie, j'allais dire, de tous les gens que tu rencontres.
Oui, c'est ça.
Donc,
ouais.
On se dit, il y a des chasseurs, des épiciers, n'importe qui, et voilà, pourquoi pas un physicien nucléaire. Il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas être là lui aussi, quoi.
Non, il y avait d'autant moins de raisons que Bernard Laponche, le physicien nucléaire en question, m'a avoué après que lui, il avait passé son enfance sur ces chemins-là. Chose que je ne savais pas au moment où je le contactais.
Donc la boucle était
bouclée.
Donc tout ça est. Je disais, c'est très poétique, c'est très personnel, mais il y a aussi plein de moments drôles. Mmh. Là, on rigole quand même à certains endroits. Moi, il y en a deux, un qui m'a fait rire et un qui m'a fait rire un peu jaune, mais celui qui m'a fait rire, c'est le chemin, le GR4, qui est fermé par une grille.
Ouais.
Ça, je pensais pas qu'on pouvait fermer un chemin de grande randonnée par une grille.
Bah, les chemins de grande randonnée passent dans toutes sortes d'endroits, y compris des bois qui peuvent être plus ou moins privés. Et c'est vrai qu'un jour, en plus, il flottait, j'étais pas de très bonne humeur. Ça fait partie des jours de randonnée qui laissent pas le meilleur souvenir. Il suffit qu'on soit trempé, qu'on ait froid. Et voilà, je bute sur une grille et je me dis merde, quelqu'un a fermé le chemin, c'est dégueulasse, c'est scandaleux. Moi aussi, je suis un peu étonné. Et donc, ça m'oblige à un très laborieux détour par des marais en passant sous des barbelés, je suis obligé de me couvrir de gadou, tout ça. Et plus loin, je rencontre un type à qui je signale l'obstacle, et donc que je croise, un des rares marcheurs que je croise. Et quelques heures après, il m'envoie un message en me disant que la grille, il fallait juste la pousser. Chose que dans mon énervement, je n'avais même pas essayé de faire. Et c'est assez ridicule. Mais voilà, j'ai un peu ri jaune aussi sur le coup. Ça m'a coûté 2-3 heures de détour et une matinée un peu pénible. Mais bon, voilà, ça fait partie des petites anecdotes que nous procure le chemin et que je rencontre, je rencontre en l'état. Quoi.
L'autre anecdote, et ça moi, je ne m'étais jamais posé la question, je ne m'étais même jamais intéressé à ça, je dois dire. Donc c'est aussi l'intérêt de cet album, c'est que quand tu arrives à Bure, tout ça est gardé par des gendarmes.
Ouais.
Et ils contrôlent tout le monde. Ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire, je trouve, en France, qu'il y ait des endroits comme ça, qui ne sont pas des endroits forcément militaires.
C'est un endroit absolument pas militaire, c'est un endroit tout à fait ouvert.
Mais qui soit très surveillé, très contrôlé, que même il y a un habitant qui raconte comment s'est passé l'installation de cet enfouissement. Mmh. C'est quasiment de la dictature, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, c'est un coup de force.
Ouais, il y a une pression policière et judiciaire sur les gens qui vivent sur place. Alors attention, c'est un projet d'enfouissement. Pour l'instant, il n'y a rien d'enfoui encore à Bure. Hein. C'est pour ça qu'il faut... Il faut continuer à lutter, c'est pas fait. Mais c'est vrai qu'arriver à Bure, c'est toujours une expérience très surprenante. C'est un tout petit village, c'est un des endroits les moins peuplés de France. Il y a 7 habitants au kilomètre carré. La première fois que j'y suis allé, moi, bien avant de faire cette traversée, Bure étant le point final de ma balade, le bois Le Jus, qui est un petit bois à côté de Bure, qui va être rasé pour les besoins de ce futur projet d'enfouissement de déchets nucléaires, c'est là que j'avais décidé de poser mon sac. Mais je suis allé quelques semaines avant rencontrer les gens sur place, et Michel Labat, un des témoins qui figure dans mon livre, qui habite tout près, j'avais demandé de m'emmener voir ce petit bois. C'était un après-midi de printemps, il faisait très beau. Il m'a dit « Ok, on prend ta voiture, mais je te préviens, on va se faire arrêter ». J'avais un peu de mal à le croire, parce que c'est un endroit absolument désert. On a pris ma bagnole, on a fait 2-3 km, et en arrivant au bois, il y a deux camions de flics qui ont jailli, qui nous ont contrôlés, qui nous ont pris en photo, qui ont pris ma voiture en photo. Il y a deux motards en kaki, je ne sais pas ce que c'était, qui ont jailli d'un champ de maïs. On s'est retrouvés assaillis par les forces de l'ordre, alors qu'il n'y avait pas d'autres êtres humains à des kilomètres à la ronde. Ces gens-là, ça veut dire qu'ils sont là à demeure toute la journée, jour et nuit peut-être. Et donc je savais que ça allait être compliqué. Et en arrivant à pied vers ce petit bois, 2 mois plus tard, je me suis dit, est-ce que je vais me faire contrôler? A priori, il n'y a personne. Et alors que j'étais plus qu'à quelques centaines de mètres du bois, d'un buisson jaillissent deux gendarmes qui me demandent mes papiers. C'est en France, c'est en 2021. En démocratie, et il y a cet endroit de France totalement désert d'où jaillissent des flics des buissons. Et c'est pas, enfin, je veux dire, pardon, hein, mais c'est un fait. C'est quelque chose que j'ai vécu par deux fois moi-même, dont je témoigne très concrètement dans le livre. Et ça montre bien la pression qui règne sur ce petit coin de France, parce que l'industrie nucléaire a besoin d'un dépotoir pour ses déchets. Ils ont décidé que ce serait là-bas et que les gens qui s'y opposent allaient en prendre plein la gueule. Et c'est ce qui se passe. Heureusement, ils sont costauds, les gens là-bas. Ils sont solidaires. Et c'est pour ça que je voulais aller voir là-bas et terminer mon chemin là-bas. Quoi.
Oui, parce que quand il y a eu des décisions de prise dans le choix de cet endroit, il y a eu plus que des pressions, il y a carrément des gros bras, le conseil municipal a été un peu pris en otage.
Ouais.
Enfin, il y a eu, ça aussi, c'est des
tout
choses
ça, c'est,
incroyables. Quoi.
C'est incroyable et c'est très documenté. Hein, je veux dire, on en trouve maintenant les récits à différents endroits. Mais c'est vrai qu'il y a une pression là-bas qui est terrible et que ça... Ça conditionne la vie quotidienne là-bas. Quoi. On ne peut pas se pointer là-bas sans avoir une voiture de flic qui passe dans un champ de vision, alors qu'on est dans des petits villages absolument tranquilles. Il y a là-bas... En fait, je crois que toute la pression et toute l'aberration de l'industrie nucléaire, elle se porte sur ce village-là, parce que c'est là qu'on va enfouir les déchets. Et si on ne les enfouit pas là, comme maintenant on ne sait plus quoi en foutre, des déchets, il y en a partout, ils débordent, des déchets nucléaires, hein, je dis bien, qui sont dangereux pendant des milliers d'années. Si on ne les met pas là et qu'on n'a pas d'autre endroit, c'est l'engorgement immédiat pour l'industrie nucléaire. Donc, c'est cette pression-là que cette présence policière illustre.
Donc, on termine un peu cette interview sur un côté un peu sombre, mais ce n'est pas quand même la tonalité globale de l'album, c'est plutôt quelque chose de très solaire.
C'est un livre actif,
de très actif, de très poétique, de très aéré, même si c'est un album en noir et blanc.
Ouais.
Et donc, je te remercie d'avoir passé cette petite demi-heure avec moi pour parler du droit du sol. C'est un livre magnifique qui est publié par les éditions Futuropolis au prix de 25 euros. Et je donne toujours le nombre de pages parce que c'est important de savoir dans quoi
200 et quelques.
On s'engage. 200 et quelques, me dit Étienne, mais je vais quand même donner le nombre exact. 207.
Voilà.
Je te remercie, je te dis à bientôt.
À bientôt, merci à toi.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh!
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mmh.